Salut à tous et à toutes pour cette troisième émission de notre dispositif spécial Euro 2021. Alors vous en avez pris l'habitude, aujourd'hui on va faire la troisième preview de notre dispositif et on va continuer aujourd'hui avec le groupe C. Mais pour m'accompagner aujourd'hui, le plus breton des parisiens ou le plus parisien des bretons, encore à définir. Jules Quité, comment vas-tu ?
Bah écoute, en pleine forme, je sentais que les deux premières previews manquaient un peu de jus, donc tu m'as appelé à la rescousse quoi.
Exactement, ouais, pour mettre un petit peu de peps dans cette dynamique, Antoine commençait à fatiguer. Et comme je vous le disais aujourd'hui, on va expliciter un petit peu les équipes du groupe C. Donc ce groupe C qui sera composé des Pays-Bas, de l'Autriche, de l'Ukraine et du petit challenger de cette compétition, la Macédoine du Nord. Des matchs qui auront lieu dans un premier temps à Amsterdam et aussi à Bucarest. Donc les Pays-Bas qui auront un petit avantage puisque ce sera la seule équipe à jouer à domicile cette compétition, dans cette poule je veux dire. Jules, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette poule ?
Bah écoute, je pense que cette poule aurait été un peu jouée d'avance si les Pays-Bas n'avaient pas fait n'importe quoi il y a un an. Enfin, il ne sait pas, d'ailleurs c'est Koeman qui est parti. Du coup, je pense que ce qui va être intéressant, c'est un peu la bataille pour la première place. À mes yeux. Après, on va voir ce qui se passe avec les petits challengers, quoi.
Donc, pour ce groupe C, on va commencer par le favori de ce groupe, qui sont les Pays-Bas. Pour vous faire découvrir un petit peu les Pays-Bas, on a été voir Elias, que vous pouvez retrouver sur Twitter sur le nom de Elias de Billet. Et on espère que vous allez vous régaler.
Alors, bonjour Elias, merci beaucoup de répondre à notre petite demande d'interview concernant les Pays-Bas. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap du parcours de qualification des Pays-Bas ? Comment ils s'en sont sortis ? Est-ce que c'était compliqué ? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé ?
Bah déjà, merci à vous pour l'invitation, avec grand plaisir que j'y réponds. Alors les Pays-Bas, c'est une nation qui est plutôt habituée à être présente dans les grands rendez-vous. Et pour cet Euro, bah, ça a été le cas. Ils ont terminé deuxième de leur poule à 2 points derrière l'Allemagne, en faisant un parcours quasi parfait, donc 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. La seule défaite, c'est face à l'Allemagne sur un match qui avait un peu marqué les esprits, le fameux 3-2 à domicile. Et voilà, à part le petit accident, le 0-0 contre l'Irlande du Nord, ça a été comme sur des roulettes. Il y a des gros scores qui sont passés contre les nations un peu plus modestes. Donc voilà, on va voir des Pays-Bas qui n'ont pas eu trop de mal à se qualifier, mais comme on le verra plus tard, c'est pas pour autant qu'ils arrivent totalement confiants.
Alors explique-nous, est-ce que ce serait pas un peu à cause de l'entraîneur ? Il y a eu des changements. Quel rôle déjà a Frank de Boer sur l'équipe ? Et est-ce qu'il n'est pas un peu critiqué au pays ?
Bah, faut savoir que de Boer, il est arrivé en prenant donc les Pays-Bas qui étaient déjà qualifiés pour l'Euro, puisqu'il est arrivé en septembre 2020. Et il y a quand même une espèce de pression, puisque même si c'est Koeman, l'actuel entraîneur du Barça, qui les a qualifiés, il se trouve que les Pays-Bas n'ont pas joué la Coupe du Monde 2018, et ils n'ont pas joué non plus l'Euro 2016. Donc ça faisait quand même deux grosses compétitions qu'on ne les voyait plus avec la fin de l'ère Van Persie, Robben, Schneider. Il y a eu un espèce de petit creux au niveau du talent brut en sélection. Et si les Pays-Bas avaient retrouvé quand même un certain visage, un certain bagout avec Koeman, c'est vrai que depuis de l'arrivée de Boer, les critiques sont très 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 importantes, que ça soit autant dans le fond de jeu que dans les résultats très récents. C'est vraiment pas fou. Il a battu le triste record de pas remporter ses 4 premiers matchs avec la sélection, puisqu'il a fait 3 nuls, 1 défaite. Et que ça soit par son style de jeu ou les systèmes qu'il a choisi, il y a sans cesse une alternance entre le 4-3-3 et le 5-3-2 un peu plus classique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions qui se posent autour de lui, que ce soit au niveau de son management. Et c'est vrai qu'il n'arrive pas à l'Euro avec tout le pays derrière lui, puisque c'est au pays d'ailleurs que les critiques sont le plus importantes à son égard.
Est-ce que les joueurs sélectionnés ont changé ? Il y a eu des surprises. Quel portrait tu pourrais nous faire de cette liste ?
Bah écoute, la liste des Pays-Bas, c'est une liste quand même, quand on regarde sur le papier, quand on suit un petit peu le foot européen, on va retrouver une espèce de colonne vertébrale qui fait quand même assez peur. Que ça soit la défense centrale, donc De Ligt, et ça sera vraisemblablement De Vrij qui l'accompagnera. C'est quand même deux joueurs qui aujourd'hui, bon ben l'un est champion d'Italie, l'autre n'est pas champion d'Italie avec la Juve, mais il a fait quand même une saison presque une saison de folie, on peut le dire, puisqu'il est très très, c'est l'un des seuls qui est quasiment exclusivement épargné par les critiques autour de la Juve cette année. Il y a évidemment l'absence de Van Dijk qui change énormément de choses, on y reviendra tout à l'heure. Au milieu de terrain, on a quand même De Jong qui sort une top saison avec le Barça. Il y a De Roon à l'Atalanta qui, tout, comme d'habitude, voilà, tient la baraque. L'expérience de Klaassen, Wijnaldum qui, même si c'est une saison un peu difficile avec Liverpool, on reste sur des milieux quand même avec des noms assez clinquants. Et puis devant, bon, bah, on a quand même Memphis Depay. Et sinon, bah voilà, il y a pas mal de jeunes, on va en parler. Il y a des jeunes qui font vraiment envie. Et puis il y a même des joueurs pas si jeunes que ça, qui sont annoncés titulaires, qui risquent de l'être et qui sortent de saisons pas mal intéressantes.
Tu penses à qui?
Bah, je pense à Bergwijn sur l'aile devant, le joueur de Feyenoord. Il sort quand même, bon, il a 29 ans, hein, donc c'est pas un jeune. On le connaît un petit peu et puis pas tant que ça finalement. Il sort d'une saison à 19 buts et 14 passes décisives. Il est constamment aligné par De Boer dernièrement. Donc c'est voilà, c'est pas un jeune, c'est pas une star, mais c'est quelqu'un qui a ses stats et qui voilà surtout va démarrer en tant que titulaire. Donc ça va être intéressant de le suivre. Puis après, bon, cette liste, elle a quand même laissé, il y a pas mal de nouveaux dans cette liste, hein. On pense évidemment à celui qui va sûrement démarrer titulaire d'ailleurs en tant que latéral, c'est Wijnaldum, pas confondre avec Wijnaldum, la pépite de l'AZ Alkmaar, qui aujourd'hui a 21 ans, mais qui à 21 ans a déjà plus de 100 matchs de Eredivisie au compteur, qui affiche une solidité défensive vraiment très très intéressante, surtout pour un joueur qui peut jouer autant le piston à gauche que le latéral sur une défense à 4. Il y a évidemment Gravenberch qui est la pépite de l'Ajax. On rappelle qu'en 2018, c'est lui qui a le prix Abdelhak Nouri, qui est le prix qui récompense depuis l'accident de ce cher joueur, qui récompense le meilleur joueur en fait du centre de formation. La même année, en septembre, il commence son parcours pro avec un match contre le PSV Eindhoven, qui fait de lui finalement le plus jeune joueur de l'histoire de l'Ajax à avoir débuté un match pro, et il devance Clarence Seedorf. On lui souhaite évidemment la même carrière.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit sentiment au pays de mal exploiter cette sélection ou de un peu de
Bien
gâchis?
sûr, bien sûr, bien sûr. Comme on l'a dit, hein, c'est clair et net que on a été habitué à avoir des effectifs de cette nation qui étaient absolument incroyables. Ok, on n'a peut-être pas des joueurs qui sont en pleine forme dans leur club, mais on a quand même du talent, d'où la frustration avec Franck de Boer, parce qu'encore une fois, le principal problème n'est pas tant les résultats, c'est vraiment sur le fond de jeu. Bah parce que voilà, il y a du talent et ça se voit pas forcément. Bon, nous on l'a connu avec l'équipe de France aussi, mais avec les Pays-Bas, il y a forcément une exigence en termes de contenu qui est beaucoup plus grande que chez nous. Et la frustration commence à vraiment, vraiment grandir. Et là, De Boer, il est un peu. Il est au pied du mur, quoi. C'est-à-dire que si on. Je pense qu'on peut imaginer assez facilement que si les Pays-Bas ne font pas au moins une demi-finale, ce qui est l'objectif annoncé par l'entraîneur lui-même en conférence de presse, on peut facilement deviner qu'il ne restera pas longtemps à la tête de la sélection, même si c'est à 1 an et demi de la Coupe du Monde. Je pense que la fédération sera obligée à un moment de céder aux pressions populaires parce que les pressions populaires sont clairement justifiées.
Et parce que justement, ouais, parlons un peu de jeu. C'est quoi le style de Bohr?
Donc l'équipe, hein, je vais te faire un peu l'équipe qui est pressentie, hein, évidemment, il y a toujours des changements qui peuvent arriver en fonction de ce qu'il est en train de voir en ce moment à l'entraînement, mais l'équipe type, donc on aurait Tim Krul dans les buts, hein, le gardien de Norwich, avec l'absence de Cillessen. Donc Wijndal, la fameuse pépite de l'AZ Alkmaar, qui est titulaire à quasi 95%. La défense centrale, donc il y a De Ligt qui est le numéro 1, et il y a De Vrij, où après on sait que De Vrij c'est un joueur qui préfère peut-être la défense à 3. Et dans un passage à 4, c'est normalement Danny Blind, le Hollandais, le classique Hollandais, qui devrait tenir sa place à côté de De Ligt. Dumfries, évidemment, sur son côté gauche. Un milieu de terrain avec l'expérience de Klaassen, qui lui est là depuis très longtemps. Wijnaldum, évidemment, et De Jong. Et puis devant, donc le Bergwijn dont on parlait tout à l'heure, qui voilà, hein, va essayer de tenir sa place. Sans être une star, sans être un jeune talentueux, mais en étant tout simplement, on va dire, un peu l'homme du coach, voilà, celui qui va vraiment se sacrifier pour l'équipe, et puis accompagné de Depay et de Jong, du FC Séville évidemment, qui là eux vont avoir un peu beaucoup de pression sur les épaules, puisque bah, ça va peut-être nous permettre d'introduire le joueur de cette équipe. C'est quand même Memphis, hein, parce que lui, lui sort d'une assez grosse saison avec Lyon, malgré des résultats collectivement.
Finalement, ouais, c'est ça qui est rigolo quand tu présentes le truc, c'est qu'on a l'impression que Memphis il quitte Lyon pour retrouver les mêmes galères aux Pays-Bas, quoi. C'est lui qui doit porter l'équipe.
Totalement, totalement. C'est le joueur phare. Puis, c'est même pas qu'une question de réputation. C'est aussi une question de chiffres. Sur les 6 derniers matchs des Pays-Bas, dont le dernier contre l'Écosse avant-hier, bah c'est tout simplement décisif sur les 6 derniers matchs, à chaque fois. Il est efficace, il a ce côté leader, où vraiment on sent que toute l'équipe lui fait confiance et se range derrière lui et part à la guerre avec lui. C'est un des joueurs qui semble quand même au sommet de son art quand on suit un petit peu ce qu'il fait avec Lyon. Donc oui, énormément de pression pour lui. Mais après tout, est-ce que c'est pas ce qu'il aime ? Je pense que c'est une configuration qui lui va totalement. Et cette année, il est pas seul. Voilà. Il y a quand même des tauliers derrière. Il y a d'autres jeunes. Il y a De Jong, De Ligt. Voilà, cette espèce de colonne vertébrale De Ligt, De Jong, De Paai, je pense que les Pays-Bas peuvent nous faire vraiment un bon euro.
Donc on remercie Elias d'avoir accepté de nous répondre. Jules, qu'est-ce que tu penses alors de cette équipe des Pays-Bas ?
Bah écoute, moi je pense que sur le papier ils ont quand même un gros effectif. Après, les deux petits points noirs que je mets dans ce groupe là pour moi, c'est le Covid de Silesen qui fait qu'ils se retrouvent un peu avec aucun goal costaud, parce que Tim Krul c'est quand même pas assurance sous risque, et c'est Frank De Boer qui est pour moi un énorme sketch en tant que sélectionneur. Il suffit d'aller regarder ses conférences de presse sur YouTube, il se gourre entre les noms de ses joueurs etc. encore hier. Et puis même toutes ces expériences en club ont été catastrophiques. Donc je pense que malheureusement dans les grosses compétitions il faut un gros sélectionneur solide et c'est pas le cas là.
Ok, merci Jules. Bon, on va enchaîner directement avec la deuxième équipe qui est l'Autriche, qui joue un petit peu le rôle d'outsider dans cette compétition. Et pour cette preview sur l'Autriche, on a été voir Julien qui est journaliste à la rédaction de Café Crème Sport. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit mea culpa par rapport à notre émission de vendredi, puisque sur l'émission de vendredi, notamment sur la Turquie, c'est absolument pas Julien justement qui avait fait la preview, mais c'est bien Thomas. Donc voilà, petit mea culpa parce qu'on a fait la petite erreur. Mais voilà, ça arrive même au meilleur. Donc voilà, on retourne sur cette Autriche et c'est Julien donc qui nous a parlé un peu de cette équipe. Et il nous a expliqué un petit peu quelles sont les surprises de la liste. Et pareil, on vous laisse écouter ça pendant 10 minutes.
L'Autriche n'était pas à la dernière Coupe du Monde. Il y a eu des résultats décevants au dernier Euro. Du coup, moi, je voulais savoir un peu où en était cette équipe aujourd'hui et quels sont ses axes de progression. Voilà, de manière assez globale, est-ce que tu peux me présenter où en est l'équipe aujourd'hui ?
Effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu quelques résultats décevants sur les dernières compétitions internationales. Ils s'étaient qualifiés brillamment pour l'Euro 2016 avec une très très belle campagne de qualification. Ils avaient enchaîné 9 victoires, un match nul, donc ils étaient invaincus. C'était une équipe qui était même arrivée jusqu'au 11e rang FIFA. Donc ça montre quand même que c'est une équipe qui a un gros potentiel. Et pourtant, lors de cet Euro 2016, donc il y a 5 ans, ils ont vraiment déçu, puisque dans un groupe quand même qui était censé être abordable, vu ce qu'ils avaient démontré auparavant. Et ensuite, à la suite de ça, donc le sélectionneur qui était en place à l'époque, c'était Marcel Koller, n'a pas été relevé en octobre 2017. Et donc, ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu se qualifier non plus à la suite des campagnes de qualification pour le Mondial 2018. Et donc, ils ont changé d'entraîneur. Ils ont pris un Allemand, Franco Foda, donc qui connaissait bien le championnat autrichien parce qu'il entraînait le Sturm Graz à l'époque. Et depuis que c'est Franco Foda, on a retrouvé finalement une stabilité dans les résultats. Et donc, ils ont terminé deuxième de leur poule de qualification. Et donc, bon, c'est une équipe qui a renouvelé aussi ses cadres, qui base maintenant son jeu sur une équipe vraiment très jeune, qui développe un jeu quand même très offensif, très plaisant, à l'image de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le championnat autrichien, avec du gegenpressing, voilà, beaucoup de verticalité. C'est aussi ce qu'on retrouve dans le championnat d'Allemagne, la Bundesliga, hein, puisque 21 des 26 joueurs sélectionnés évoluent en Bundesliga. Une équipe qui n'est pas forcément attendue, mais qui peut faire un très bon résultat si elle y met en tout cas tous les ingrédients.
Et dans le jeu, est-ce qu'il y a une progression depuis la prise de fonction du nouvel entraîneur?
C'est voilà un jeu comme je le disais, un style très actif, très dominant. Voilà, sur les campagnes de qualification, l'Autriche est en moyenne 60% de possession de balle. C'est une équipe qui laisse pas l'adversaire développer son jeu. Alors on peut citer la statistique en PPDA. Donc c'est les passes par action défensive. Donc en gros, lorsqu'une équipe défend, c'est la moyenne de passes qu'elle autorise à l'adversaire pour réaliser des actions. Donc c'était la moyenne la plus faible de toutes les équipes en qualification avec 6,88. Donc en gros, l'équipe adverse a environ 7 passes avant de perdre le ballon, ou en tout cas pour marquer un but contre l'Autriche. Donc ça montre quand même que c'est une équipe qui base vraiment sa domination sur un style très physique, beaucoup d'intensité. Et ça se retrouve aussi au niveau offensif où voilà, elle n'hésite pas à garder le ballon, mais aussi bah, va se structurer avec un jeu très très vertical, comme je disais. C'est une équipe qui évolue en 4-2-2, 4-2-3, avec deux latéraux qui vont vraiment faire beaucoup de causes vers l'avant, qui vont vraiment se projeter. Donc ces latéraux, c'est Andreas Ulmer et puis Leimer, qui jouent du côté du Borussia Mönchengladbach. Ce qui permet aussi aux deux ailiers que sont donc David Alaba. Et puis, alors ça tourne du côté droit, c'est soit Valentino Lazzaro, soit Baumgartner qui évolue du côté d'Offenheim aujourd'hui. Donc voilà, ces deux joueurs qui vont avoir beaucoup de liberté au niveau offensif, qui vont se passer dans les espaces, apporter du surnombre, créer des décalages. Et donc voilà, donc une équipe plaisante à voir jouer. Et donc la réelle différence entre Kohler et Foda, c'est donc l'utilisation justement par Foda de David Alaba en tant que ailier gauche, alors que sous Kohler il évoluait sur un poste de milieu centre qui finalement était un poste un petit peu de dépannage, parce qu'à l'époque on n'avait pas forcément de milieu de terrain vraiment dominant. Aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. Et l'autre utilisation, c'est celle de Marco Arnautovic, qui évolue en pointe. Et à l'époque, sous Marcel Kohler, il était utilisé comme ailier gauche.
Ok, super. Bon, et du coup, t'as déjà commencé à évoquer rapidement les latéraux, les ailiers et l'attaquant de pointe. Est-ce que tu peux me compléter un petit peu ce 11 type qui se dégage et éventuellement nous préciser les 2-3 incertitudes qui restent sur la compo de départ?
Au niveau du gardien de but, donc ça sera Schlager, donc le gardien de Linz. Voilà, c'est un jeune gardien, mais qui est quand même performant. Hein. Du côté de la défense centrale, il faudra s'attendre à avoir Martin Hinteregger, le défenseur de l'Eintracht Francfort, et puis Alexander Dragovic, qui évolue du côté du Bayer Leverkusen. La vraie incertitude, ça sera du côté du milieu de terrain. Puisque il faut s'attendre normalement à avoir un milieu à trois avec Xaver Schlager, Konrad Leimer et puis Marcel Sabitzer, avec Sabitzer en numéro 10. Mais bon, malheureusement, Konrad Leimer n'a quasiment pas joué de la saison avec Leipzig, vu qu'il a été blessé au genou. Donc voilà, on va peut-être se poser avec ce problème de conditions physiques pour lui, surtout que c'est un joueur qui a l'habitude d'avoir un très très gros volume de jeu, dans les courses, ce genre de choses. Donc forcément, s'il n'a pas les capacités de faire ce qu'il doit faire d'habitude, on pourra s'attendre à voir un élément plus expérimenté comme Stefan Ilansker ou alors Julian Baumgartlinger prendre sa place. Mais sinon, voilà, deux milieux qui sont capables de faire des courses vers l'avant, d'apporter du surnombre, techniquement, voilà, plutôt correct. Et surtout, gros volume de course.
Ok, et du coup, Alaba et Baumgartner sur les côtés, et après, en pointe, Arnautovic.
On pourrait sans doute plutôt se retrouver avec Sasa Kalajdzic, l'attaquant de Stuttgart, qui a fait une très belle saison en Bundesliga, 16 buts et 6 passes décisives. C'est un joueur qui a un peu les mêmes capacités physiques qu'Arnautovic, hein, il est grand, il fait 2 mètres. Il est quand même plutôt puissant, habile techniquement, très bonne finition, et surtout, il rechigne beaucoup moins à faire les efforts défensifs qu'Arnautovic. Donc, on pourrait vraiment le retrouver comme attaquant titulaire. En tout cas, ça a été le cas sur les derniers matchs de l'Autriche en campagne de qualification pour le Mondial 2022.
Ok, très très bien. Et s'il y avait un joueur que tu devais ressortir de cette liste de 26
Plus que t'en donner un, j'ai envie de t'en donner deux. Forcément, ça va pas être très original, mais je vais dire David Alaba. Ouais. Parce qu'il représentait justement l'échec de de l'Autriche à l'Euro 2016. Et donc aujourd'hui, il est particulièrement attendu. Enfin, c'est le meilleur joueur autrichien du 21e siècle. Il va avoir ce rôle de leader. De son positionnement tactique en tant qu'ailier gauche va dépendre finalement tout le fonctionnement de la tactique autrichienne. Donc si lui, il arrive à bien performer dans ce rôle-là, je pense que l'Autriche n'aura pas trop de mal à appliquer son plan de jeu. Et sinon, j'ai envie de te citer donc Sasa Kalajdzic comme la potentielle pépite de cette équipe autrichienne. Voilà, il a vraiment une carte à jouer. Il a fait une belle saison donc en Allemagne et de son rendement offensif et défensif dépendra aussi donc la réussite de cette équipe autrichienne dans ce groupe C.
J'avais juste une dernière question que je pose un peu régulièrement. Quels sont les objectifs de l'Autriche ?
Forcément, ça va être de sortir de la poule. Comme tu l'as dit, c'est une poule quand même plutôt abordable pour eux. Je pense qu'ils vont largement faire jeu égal avec l'Ukraine, même si l'Ukraine a peut-être un côté expérience que n'a pas l'Autriche. Les Pays-Bas, bon bah, c'est sûr qu'ils sont annoncés comme favoris de cette poule, mais ils auront peut-être un peu plus de pression. Et puis l'Autriche, oui, donc qui devra donc sortir de cette poule pour enfin marquer les résultats qu'elle obtient sur les phases de qualification depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Donc prouver qu'elle a un statut. Elle est 23e aujourd'hui au rang FIFA, donc elle peut légitimement postuler à une place au moins de 8e de finaliste, voire un petit peu mieux en fonction des aléas de la compétition.
Merci beaucoup, Julien.
Et donc, on remercie encore une fois la rédaction de Café Crème Sport qui a mis à disposition tout un nombre de journalistes de son équipe pour nous répondre pour ses questions et ses previews. Jules, je me retourne vers toi encore une fois. Qu'est-ce qu'on pense de cette équipe d'Autriche et qu'est-ce qu'on envisage pour la compétition ?
Bah écoute, moi j'avoue que j'ai un petit faible pour cette équipe. Hein. Les suiveurs de Poteau Carré savent que j'apprécie grandement le championnat allemand. Et il est quand même largement représenté dans ce groupe-là. Il y a quasiment que des joueurs qui jouent en Bundes. Et j'ai hâte de voir ça parce que c'est quand même une équipe assez. Enfin, il y a un bon mix entre les jeunes, l'expérience. Donc on va voir. Je trouve que c'est un peu faible peut-être devant, mais je trouve que c'est très solide derrière et au milieu de terrain. Et je les vois bien deuxième devant l'Ukraine.
On passe tout de suite du coup à la troisième équipe de cette preview, qui est l'Ukraine. L'Ukraine qui pourra encore une fois cette année s'appuyer sur ses cadres. Yarmolenko, Zinchenko, Konoplyanka. Bref, on va vous laisser écouter cette petite preview. On a fait cette fois-ci avec Elliot, lui aussi qui fait partie de l'équipe de Café Crème Sport. C'est pour ça qu'on s'attarde à les remercier encore et encore, puisqu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés sur ces previews. Et on envoie ça tout de suite.
Alors Elliot, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour parler de l'Ukraine. L'Ukraine qui a fait un très bon parcours en phase de qualification. Ils avaient un groupe pas facile et on voulait savoir où en était l'Ukraine aujourd'hui et comment ils étaient à quelques jours de l'Euro.
Eh ben, tout d'abord, bonjour, merci à toi pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Mais donc, où ils en sont ? Ils ont vécu déjà une Ligue des Nations compliquée où il faut se rappeler qu'il y a eu le match sur tapis vert avec les cas de Covid beaucoup trop nombreux pour pouvoir atterrir sur le sol suisse. C'était en novembre 2020, c'est ça, le 17 novembre. Ouais. Donc il y a cette dernière place dans le groupe 4 de Ligue des Nations où donc du coup ils vont redescendre en Ligue B. Donc ça c'est un fait et c'est clair que c'est un coup d'arrêt, on va dire, dans la dynamique sportive de la sélection, puisque depuis que Shevchenko est arrivé, honnêtement il y a un plan de jeu, il y a une ligne directrice et surtout Shevchenko il s'est fédéré quoi. Voilà, on l'a connu en tant que joueur, maintenant en tant que sélectionneur c'est du même acabit et c'est très très intéressant de les suivre.
Est-ce que tu peux nous parler de leur groupe de qualif? Ils étaient avec le Portugal, la Serbie, le Luxembourg et la Lituanie et ils ont un peu créé la surprise quand même, on les attendait pas à ce niveau-là.
Oui, c'est vrai. Ils ont vite enchaîné les résultats et moi lorsque je regarde les équipes qu'il y avait, finalement je trouve que c'est pas tant une surprise que ça. Mmh. Honnêtement, quand je regarde leur effectif, je trouve que c'est équilibré à tous les niveaux. Je sais pas s'il faut tout de suite parler des joueurs, mais pour moi, c'est vraiment une continuité, en fait. Voilà, c'est vraiment une continuité.
Justement, bah, du coup, parlons des joueurs. Il y a une liste qui a été communiquée. Comment tu la vois? Est-ce que c'est un mélange d'expérience et de jeunesse? Est-ce que il y a des joueurs qui se détachent? Comment tu la présenterais?
Au milieu, c'est là où on va dire, je pense, c'est la grosse force de cette équipe. Avec la colonne vertébrale du Dynamo Kiev, en partie, faut savoir que contre Bahreïn, alors c'est difficile parce que c'est un match amical, on va dire, qui vaut pas grand chose. Mais il faut savoir que au milieu de terrain, on avait Stepanenko, Chaparenko et Makarenko. Et donc Stepanenko, il joue au Shakhtar et les deux autres jouent au Dynamo Kiev.
Donc trois joueurs du championnat, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a une vraie colonne vertébrale. Mais sinon, à part eux, on a Sidorchuk aussi qui est du Dynamo Kiev, qui a 30 ans, qui est très expérimenté. On a évidemment Malinovski qui sera évidemment titulaire parce qu'il a fait une superbe saison à Atalanta. Moi, j'ai adoré le regarder jouer cette saison en Serie A. On a donc Stepanenko, on a Makarenko aussi qui joue en Belgique, mais qui est aussi âgé de 30 ans, et malgré sa faible expérience internationale, il a du crédit auprès du sélectionneur. Puis après, c'est des jeunes. Sinon, il y a aussi Marlos, qui a un profil un peu hybride, parce qu'il peut jouer aussi plus haut sur le terrain. Marlos, qui est l'un des joueurs tauliers du Shakhtar, celui qui est peut-être arrivé en provenance du Brésil. Enfin, il est brésilien, mais en fait, il a été naturalisé maintenant, il y a depuis 2 ans, je crois. Mmh. Et donc, il a aussi beaucoup de crédit. Il a déjà 23 sélections, alors qu'il a 32 ans. Enfin, c'est vraiment devenu l'un des piliers aussi de cette sélection. Et puis au milieu, on a Dessim Gankov qui fait une superbe saison au Dynamo Kiev, qui je pense est l'un des grands artisans du titre avec Luchescu. Et donc lui aussi, c'est pareil, je pense qu'il sera titulaire à l'Euro. Donc là, c'est pour les milieux, sachant que j'ai oublié Yarmolenko, mais c'est pareil, Yarmolenko, il peut jouer plus bas, mais il peut aussi jouer plus haut. Donc lui aussi qui est très expérimenté et qui est l'un des tauliers de cette équipe, aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain. Bon après du coup je continue, mais en attaque on a Bezedine qui est l'un des attaquants Dynamo Kiev, qui a réalisé une saison plus que correcte, qui est titulaire dans son club. On a Yaremchuk aussi, que moi que j'aime beaucoup, qui a 25 ans, qui joue à la Gantoise, qui est pareil, qui a de chance de jouer pas mal de matchs. Et puis après on a qui d'autre? C'est les défenseurs et les gardiens. Au gardien, on a évidemment Piatov qui était sélectionné, mais qui est captain, je pense qu'il va jouer, mais après je sais pas, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors je dis ça, mais
on pose le gardien,
coup de poker, oui. On a Troubine, celui qui s'est révélé cette saison au Shakhtar. Mmh. Qui est titulaire et justement qui a pris la place de Piatov. Est-ce qu'il peut continuer sur cette lancée et prendre la place de son aîné en sélection? C'est une autre histoire, mais c'est pas écarté franchement. Et puis enfin, sur le secteur défensif, on a quand même de beaux éléments, avec évidemment Zinchenko qui a fait une superbe saison, enfin superbe, très bonne saison selon moi, qui est évidemment aussi l'un des duo de ses 24 ans, parce qu'il n'est qu'en 1996. Zinchenko, on a parfois tendance à croire qu'il est plus âgé, mais mine de rien, il est encore jeune, et je pense qu'il aura une carte à jouer. D'ailleurs, oui.
Est-ce qu'il y a un 11 type qui se dégage, ou tu sens vraiment qu'il va y avoir des ajustements jusqu'au dernier moment, avant le début de la compète?
Moi, je pense quand même qu'il va s'appuyer sur des joueurs. Shevchenko, je pense qu'il est, même s'il est pragmatique, il sait très bien qu'il ne peut pas s'amuser à, par exemple, ne pas démarrer avec Zinchenko, avec Malinovski sur le banc. Et sinon, au niveau de l'animation, bah, honnêtement, encore aujourd'hui, il me semble que ces derniers mois, il a testé plusieurs dispositifs. Il a testé un 4-5-2, il a testé un 5-3-2. En Nation League, à l'automne dernier, il a tenté un 4-3-3, un 4-1-4-1. Enfin, il se cherche, et je pense que durant la compétition, il ne va pas utiliser tout le temps le même système. À voir. Mais je pense que oui, il y a des joueurs qui, pour moi, aujourd'hui, sont quasi sûrs d'être sur le terrain face aux Pays-Bas le 15. Il me semble que c'est le 15 juin, si je ne me trompe pas. Le 13, pardon. Le 13 à 21h.
Justement, restons dans le groupe de l'Ukraine avec Pays-Bas, Macédoine du Nord et Autriche. C'est quoi l'objectif affirmé? Et puis, qu'est-ce qu'attendent les Ukrainiens?
Je pense qu'ils ont beaucoup d'espoir. Ils ont conscience qu'ils ont une très belle génération. D'autant qu'on le sait tous, l'Ukraine traverse une période politico-économique très compliquée depuis plusieurs années, avec la guerre qui sévit dans leur pays. Honnêtement, je pense sincèrement que cet Euro peut être une sorte de parenthèse enchantée s'ils vont loin.
Mais c'est presque miraculeux qu'ils maintiennent ce niveau de compétitivité dans ce contexte.
Mais oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, l'Ukraine quand même est footballistiquement, comment dire, d'un point de vue infrastructure, ils ont des certitudes, ils ont des références. Enfin, le Dynamo Kiev est un bon club. Je pense notamment à leur stade, alors qui est leur complexe même, qui est d'ailleurs aussi occupé en partie par le Shakhtar du fait de la guerre dans la région du Donbass. Donc non, je pense que c'est pas quelque chose qui, on va dire, comment dire, c'est pas quelque chose de pénalisant. Je pense qu'ils voient vraiment ça comme une force. Et sur cet Euro, je pense que oui, l'objectif c'est de sortir des poules. Finir troisième, bon, finir quatrième, ce sera un échec total, évidemment. Finir troisième, je pense que ce serait une déception. Peut-être un peu loin, mais je pense que limite, ils aimeraient pouvoir essayer de jouer à la première place. En tout cas, voilà, je pense que finir deuxième, c'est l'objectif minimal. Ensuite, les huitièmes, faut voir. Quand t'as des joueurs qui s'appellent Malinovski, Zinchenko, entre autres, Sigankov, pour moi ce trio là qui sort d'une, franchement, respectivement de très belles saisons, je vois pas comment ils peuvent douter, à part le fait que effectivement sportivement ils ont peu de références, on va pas se mentir, dernièrement c'est compliqué, mais je pense que le jour J ils peuvent être prêts.
Jules, qu'est-ce que t'as pensé de cette prévue sur l'Ukraine et qu'est-ce que tu penses de la dynamique mise en place par Tchevchenko?
Bah, écoute, j'avoue qu'avant l'entretien, je n'étais pas un spécialiste de l'effectif ukrainien, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent en championnat ukrainien et que ce ne sera pas ça tous les samedis. Mais après, c'est vrai que voilà, Shevchenko sur le banc, c'est assez sexy. Il y a des petits joueurs comme Malinovski, Konopianka, Yarmolenko qui sont assez sexy aussi. Mais voilà, moi, j'ai un vague souvenir, alors ça s'appuie sur rien, mais qu'à chaque fois, l'Ukraine, on se dit qu'ils ont des très bons joueurs et qu'on est souvent déçus en compète, donc on verra.
Ok, super. Et bon, alors pour terminer cette troisième preview et cette preview du groupe C, on va passer à notre petite équipe chouchou, on va dire, parce que on a l'impression qu'ils sont vraiment là pour le kiff. C'est évidemment la Macédoine du Nord, avec son petit diamant. Vous allez comprendre pourquoi je parle de diamant. Et on remercie évidemment le compte Twitter Football Macédonien France qui a accepté de répondre à nos questions, alors qu'il a eu des conditions un petit peu compliquées dernièrement, donc on le remercie pour sa disponibilité.
Écoute, du coup, je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet sur l'équipe de Macédonie. C'est quand même incroyable ce petit pays qui arrive à se qualifier pour une compétition comme ça. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu comment cette équipe est arrivée là, à travers soit les éliminatoires, soit la Ligue des Nations? Alors, j'ai pas réussi à trouver justement comment ils s'étaient qualifiés exactement. Donc, je vais actuellement nous raconter ça.
Bah, on a été qualifiés grâce à la Ligue des Nations, qui est la première édition qui a commencé en 2018. On avait dans la poule l'Arménie, le Liechtenstein et Gibraltar. On a assez bien géré la compétition, même si on a eu un petit échec sur l'Arménie 4-0. C'était vraiment une erreur de parcours, mais malgré ça, on a fini premier. Mais avant ça, on a eu quand même les qualifications à l'Euro basique et les classiques. On a quand même fini troisième. C'est notre meilleur résultat depuis toujours, en fait. C'est notre meilleur résultat. Et ça n'était pas suffisant pour nous qualifier, mais comme on a fini premier de la Ligue des Nations de la division D, et du coup, on a dû aller en demi-finale contre le Kosovo. Match qu'on a attendu pendant des mois et des mois, qui a été reporté pendant longtemps à cause du Covid, on a cru que ce match allait jamais se jouer. Finalement, ce match a été joué en octobre, presque un an après, quoi, après l'officialisation du match. Alors, le match s'est déroulé, c'était vraiment magique, il y avait la pression, et c'était vraiment un moment inoubliable, et après, il nous restait la finale contre la Géorgie, qu'on a dû attendre un mois pour les affronter. À ce moment-là, on s'est dit, notre sélection va sûrement encore décevoir. Et finalement, un mois plus tard, c'est l'unique Goran Pandev qui nous offre la qualification. Et ça, c'est beau, c'est symbolique.
L'immense Goran Pandev.
La légende.
et en plus de ça, moi, j'ai vu qu'il y avait quand même une victoire contre l'Allemagne, c'est ça? Si je ne me trompe pas dans les éliminatoires.
Oui, c'est la dernière victoire. Donc, il y a un mois, je crois, ça, un mois.
Ah ouais.
On a battu l'Allemagne 2-1. C'était un très bon résultat qui prouve que nous ne sommes pas une équipe qui s'est qualifiée par chance, qu'on a vraiment une bonne qualité et qu'on peut réaliser de grandes choses. Et je pense qu'à l'avenir, on sera des sérieux candidats pour notamment la Coupe du Monde qui arrive dans un an. même pour plus tard l'Euro, encore une fois. Je pense que vraiment, on peut faire peur d'autres grandes nations. Même pour l'Euro, là, je pense qu'on pourra impressionner certaines pays, certaines sélections.
Et du coup, comment s'est vécu un peu en Macédoine tout cet événement, l'approche de l'euro, etc. Ça doit être la folie un peu, non?
C'est vrai que la folie commence à prendre petit à petit, mais à l'époque, c'était vraiment pas le. Enfin, personne n'avait vraiment l'espoir de se qualifier. Et les gens étaient plus tournés sur le handball, car le handball était le sport numéro un en Macédoine. Mais depuis, on va dire, 4-5 ans, le foot commence à prendre le dessus. Ça reste encore assez léger, mais je pense qu'après l'Euro, ça va vraiment peut-être devenir le sport numéro un, je l'espère. Et cette équipe mérite d'être l'équipe numéro un, enfin, d'être le sport numéro un dans le pays.
Parce que pour rappel, la Macédoine, c'est un tout petit pays. Il y a combien d'habitants exactement, tu sais?
Il y a dans le pays, il doit y avoir à peu près 2 millions 5 habitants, 2 millions 500 000 habitants à peu près.
D'accord, ah oui. Et c'est un tout petit pays qui est en gros, bon, j'explique un peu pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas forcément, mais c'est un petit pays qui est entre l'Albanie, la Grèce et la Bulgarie.
La Serbie, ouais.
Et la Serbie, exactement. Ok, super. Bon, et alors revenons un petit peu au foot. Sur la sélection en tant que telle, à part l'immense Goran Pandev dont on parlait il y a quelques temps, qui joue encore aujourd'hui au Genoa, et Elfyn Yılmaz, c'est que des joueurs quasiment inconnus du grand public. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette sélection, les joueurs, ce qu'elle représente, etc.
Pour le grand public, tu dis l'équipe de Macédoine, personne ne connaît à part Pandev pour certains, mais si on s'intéresse beaucoup plus, on peut voir qu'il y a vraiment de la qualité, notamment tu l'as dit, Elfyn Yılmaz qui est une pépite du pays. Et en plus, pour la petite anecdote, Elmas en turc, ça veut dire diamant, donc ça veut tout dire, je pense. Et voilà, Elmas, je pense, ça sera notre meilleur joueur à l'avenir. Il prendra le flambeau de Goran Pandev. C'est tout tracé, en tout cas. Mais il y a également d'autres joueurs comme Enis Bardi, qui est vraiment un joueur très sous-estimé en Espagne, qui est le meilleur tireur de coups francs derrière Léo Messi, c'est-à-dire son niveau de jeu. Techniquement, c'est très très fort. On va faire dans le compare à Lionel Messi, donc c'est vraiment un style similaire. Et Enis Bardi, je pense qu'après l'Euro, il devrait signer dans un très très bon club. Et pourquoi pas Real Madrid comme joker de luxe, comme il pourrait nous faire une ramasse comme en 2014. Donc pourquoi pas un petit transfert surprise, et il pourrait, je pense, impressionner. Il y a notamment Aryan Adeyemi, qui est capitaine du Dynamo Zagreb, qui est vraiment un milieu défensif talentueux. C'est un génie. Il anticipe tout. C'est vraiment un joueur très sous-estimé et qui mérite quand même de jouer dans un top 5 club européen. Il devait partir à Lille il y a 2-3 ans, mais finalement, il a préféré rester fidèle au Dynamo Zagreb. Mais j'espère que là, à 30 ans, il pourra enfin vivre une expérience européenne dans un top 5 club, parce qu'il mérite. C'est vraiment un grand joueur. Et peut-être encore mentionner une dernière fois, peut-être Ezan Alioski, qui joue à Leeds avec Marcel Bielsa, qui réalise une très belle saison, qui a été quasiment titulaire toute la saison. Et là, malheureusement, il est en fin de contrat avec Leeds. Peut-être qu'il ne prolongera pas. Il y a des pistes en Italie et en Turquie. On verra où il ira, mais c'est un très bon joueur qui court énormément sur le terrain, qui est très polyvalent et qui a vraiment beaucoup de qualité. Et je pense que j'ai énuméré tous les meilleurs joueurs de l'équipe. S'il y en a d'autres qui méritent eux aussi d'être la lumière, mais c'est vraiment les plus gros joueurs que je viens de citer là.
D'accord. Bon, c'est génial parce qu'en même temps, on sent de la passion en tout cas chez toi.
La passion jusqu'au bout, quoi.
La Macédoine est dans le groupe de l'Autriche, des Pays-Bas et de l'Ukraine, qui sont. Bon, on pense que les Pays-Bas, a priori, sont peut-être un petit cran au-dessus des autres, mais l'Autriche et l'Ukraine sont des équipes assez homogènes. Est-ce que l'objectif, c'est de sortir de cette poule, ou est-ce que, pour l'instant, juste le fait d'être à la compétition, c'est tout bénef pour l'équipe et ils vont jouer leur coup à fond sans avoir de réel objectif, mais profiter juste au maximum de la compétition?
Oui, bien sûr. Avant tout, c'est même si on finit avec 0 points, c'est quand même un exploit d'être là. Mais je pense quand même qu'on a des chances de faire quelque chose. Les gens voient quand même les Pays-Bas comme assez faibles quand même, mine de rien.
Ouais.
Mine de rien, en attaque, à part Depay et peut-être Daniel Malem, c'est pas vraiment assez convaincant en fait. Mais même si je pense que pour moi, les Pays-Bas finiront premiers, Mais je pense quand même qu'on a des chances de finir dans les trois premiers. Et je pense que pourquoi pas, si on arrache un nul par-ci et peut-être dans le dernier match contre les Pays-Bas avec une équipe B qui mettront sûrement, je pense, on pourra peut-être arracher un nul ou une victoire et pourquoi pas finir dans les quatre meilleurs troisièmes et pourquoi pas arracher un huitième de finale. Bon, après, je pense pas qu'on ira plus loin qu'un huitième de finale, mais un huitième de finale pour moi est vraiment envisageable. Je pense pas qu'on finira dernier.
Tu m'as cité tout à l'heure quelques joueurs quand même de la sélection qui sont des joueurs intéressants. S'il y en a un précisément que tu devais ressortir qui serait un peu le joueur à suivre pendant la compétition.
J'irais quand même Eddy Pelmas, qui a vraiment énormément d'espoir en lui, qui est déjà au Napoli quand même, c'est quand même un très bon club et je pense qu'il pourra vraiment se révéler pendant cet Euro. Et même s'il partirait du Napoli, il pourrait aller dans un grand club et vraiment s'imposer en Europe. Mmh. Et il a également beaucoup d'objectifs. Il envisage de remporter le Ballon d'Or dans 4-5 ans. C'est un milieu de terrain complet. Il peut également jouer côté gauche ou côté droit. Techniquement, bien sûr, c'est très solide. Voilà, je pense que ça sera lui la révélation de au niveau de la Macédoine et peut-être pourquoi pas de l'Euro, même si ça me paraît compliqué, mais il est tellement, ça a vraiment un grand avenir devant lui.
Eh ben, merci encore au compte Twitter Football Macédonien France et Sonner plus particulièrement, puisque c'est lui qui a accepté de répondre à nos questions. Jules, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe et qu'est-ce que tu attends de ce petit poussé de la compétition?
Bah écoute, de toute façon, on connaît quoi? On connaît deux joueurs, trois joueurs. Elmas, j'ai dû le voir jouer deux fois, c'est sûr qu'il a l'air très doué. Bardi, on sait qu'il tire très bien les coups de pied arrêtés. Et Goran Pandev, il a des gros problèmes capillaires. Donc c'est à peu près tout ce que je sais. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'enthousiasme dans cette preview. Et de toute façon, dans le foot, on a tellement le réflexe de soutenir David contre Goliath qu'on a presque très envie qu'il fasse la surprise et qu'il saute le Pays-Bas ou l'Autriche de ce groupe.
Ouais, et puis en plus, c'est aussi l'aspect positif un petit peu de ce format avec les quatre meilleurs troisièmes qualifiés. C'est que même les petites équipes comme ça peuvent continuer à rêver de cette qualification. Et ben avant de terminer, on va passer au prono de notre petit consultant breton. Jules, est-ce que tu peux me donner un petit classement de cette poule? Comment tu vois les choses et vers quoi on va?
Ok, bon, je vais essayer de me mouiller. Ceux qui écoutent régulièrement Poteau Carré savent qu'il faut mettre dans l'application mon petit prono exactement l'inverse de ce que je vais dire. Donc je verrai en 1 Autriche, en 2 Pays-Bas. Allez, soyons fous, en 3 Macédoine et en 4 Ukraine.
Ok. Tu crois pas du tout à la dynamique mise en place par Shevchenko?
Je sais pas. En fait, la dynamique, elle se base quand même beaucoup. Moi, j'ai vu genre le match contre l'Espagne, etc. Au final, ça met un but sur coup de pied arrêté, ça se met à 14 derrière. Donc, est-ce que ça va le faire contre des équipes qui ont à peu près le même niveau? Je ne sais pas. Je ne sais pas assez vu jouer, mais j'ai envie de croire en la Macédoine. C'est que pour ça, en vrai, que je fais ma quatrième.
D'accord, ouais. L'envie de rêver. Tu es vraiment un communiste dans l'âme, Jules. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette troisième preview. Évidemment, on revient demain avec un groupe D très, très alléchant et des invités de marque. Puisque demain, on aura le groupe D avec l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse et la République tchèque. Et d'ici là, on espère que vous aurez écouté cette troisième preview. Et évidemment, pourquoi pas rattraper votre retard si vous n'avez pas écouté les deux premières. En attendant, on vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle preview alléchante.